Boomerang avec Jean-Pierre Darroussin, pilier de la clique de Robert Guédiguian, qui émeut, comme souvent, dans Gloria Mundi en salle mercredi. C'est parti. Dans un recueil de textes de Simone Veil, non pas la femme politique, mais la philosophe, avec un double V à son nom, dans ce recueil qui s'appelle « La condition ouvrière », il y a des pages magnifiques sur la grève, sur l'idée et sur l'expérience de la grève. Certains et certaines d'entre vous les connaissent peut-être, ces mots, mais je voudrais quand même, ce matin, vous les lire parce qu'ils résonnent très fort à la radio, en ce moment. Il s'agit, écrit Simone Veil, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications. La grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Et elle ajoute plus loin, bien sûr, la vie recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois et pour toujours, il flottera ici d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel œil mon invité d'aujourd'hui regarde-t-il la grève? Il est comédien, l'un des visages bien connus du cinéma de Robert Guédiguian qu'il retrouve aux côtés d'Ariane Ascaride et de Gérard Mélan, notamment pour Gloria Mundi, portrait sans concession d'une société rongée par l'individualisme. Bonjour Jean-Pierre Darroussin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Faire grève, qu'est-ce que ça signifie pour vous, tiens?
Ça veut dire s'arrêter. Ça veut dire, effectivement, j'aime bien l'expression que vous avez dans ce texte que vous avez lu, très bien lu d'ailleurs, vraiment. Enfin bon, ça, j'ai pas de jugement là-dessus, mais quand même, je trouvais que vous l'avez très bien lu, parce que c'est un beau texte. Et c'est de se tenir debout, d'arriver à continuer à ne pas plier, quoi.
Vous avez fait par le passé l'éloge de la grève à travers la lecture d'un texte de Léonard Vincent, un texte qui disait « La grève, faudrait l'essayer pour voir ». Vous l'avez essayé souvent, vous, Jean-Pierre Darroussin?
Non, dans mon métier, ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé souvent d'être confronté à ça, de par solidarité avec d'autres, de se dire bon allez on arrête, on débraye, non ça ne m'est pas arrivé souvent. Si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais volontiers, mais bon, il se trouve que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire.
À ceux qui disent à quoi bon quand il y a grève, qu'est-ce que vous répondez, vous?
Ben justement, essayez de la faire, vous verrez à quoi bon, parce que c'est pas mal de ne pas être tout le temps dans... de prendre le temps, de prendre son temps à un moment donné. De se dire, tiens, j'arrête, je suis pas forcément je suis pas dans ma fonction. Arriver à se sortir de son état habituel, à se permettre ça, oser ça. Et en plus ça, c'est pas mal, la grève, parce qu'on le fait à plusieurs, on le fait ensemble, et ça déclenche des conversations. Moi, j'ai les souvenirs, évidemment, de mai 68, par exemple, où j'étais jeune, enfin, j'avais 15 ans, mais j'étais frappé par comment les gens étaient, comment les gens se parlaient, comment d'un seul coup le discours avait envahi le voisinage, envahi les commerces, envahi la rue, envahi les stations de d'essence. Mmh. Comment les gens se mettaient à parler de leur projet, de la société, de qu'est-ce qu'ils pouvaient envisager, comment ça pouvait se dessiner, comment on pouvait dessiner un monde qui serait un peu plus agréable à vivre, comment on pouvait y croire, comment on élargissait le champ de nos possibles. Donc la grève, c'est ça, ça peut servir à ça, à prendre du recul pour réfléchir et se parler. Moi, j'ai vu pour les au moment des gilets jaunes, par exemple, en province, surtout sur les carrefours, comment pareil les gens ont ressenti ça, ont ressenti cette parole réinvestie, comment on se dit tiens, on est plusieurs finalement à ressentir quelque chose et on va essayer de trouver des solutions ensemble.
Il se trouve que dans Gloria Mundi, le sujet de la grève est abordé très frontalement. Le personnage d'Ariane Ascaride, qui travaille dans une entreprise de nettoyage, refuse de faire grève. Elle dit qu'elle peut pas se le permettre. Dans quelle mesure la grève est-elle un droit? Mais aussi, malheureusement, dans quelle mesure est-elle devenue un luxe?
Alors là, dans le film de Robert, il a pris cette situation extrême de quelqu'un qui est obligé de pour qui la protection de sa famille est devenue quelque chose d'essentiel et elle est à peu près la seule à ramener de l'argent à la maison, oui. Et que donc la grève est devenue quelque chose de dangereux pour la survie de sa famille. Et donc tant pis, elle n'hésite pas à être une briseuse de grève. Et on voit à quel point, à travers cette situation, la précarité peut justement entraîner la désolidarisation. Comment on peut d'un seul coup se préoccuper uniquement de son processus individuel, quoi, de la façon dont on va s'en sortir tout seul, comment les gens en arrivent à force de précarité à tirer chacun dans un sens différent, chacun comment le peuple se disperse à cause d'un appauvrissement, comment les gens courent dans tous les sens, et pas que l'appauvrissement, aussi la peur qui règne, comment cette la crise, l'angoisse, la façon dont on a insufflé ça dans la société, comme le jour où un type à la télé a dit la France a peur, c'était dingue de dire ça. Il se rend pas compte de ce qu'il a fait ce jour-là.
Alors votre personnage dans ce film, il est chauffeur de bus. La fille de sa femme qu'il a élevée comme la sienne vient de mettre au monde un enfant et cette naissance inaugure le début d'une série de drames. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses vont pas aller en s'arrangeant. Ubérisation, humiliation, paupérisation, addiction, violence, trahison. La lumière au bout du tunnel, elle est où, Jean-Pierre Darroussin?
Vous employez le mot tunnel et c'est la lumière dans ce film, elle est à la fin, elle est dans un petit tuyau qui est un œilleton.
c'est juste.
Ce tuyau, elle est là, il est sur la poésie, sur la façon dont les gens peuvent se réapproprier la langue et la faire sienne. Comment est-ce qu'on peut trouver son propre langage qui est finalement une forme de liberté? Comment on invente des mots? Alors le personnage que joue Gérard Mélan, absolument, moi je trouve que c'est un film. Bon, évidemment, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et tout ça, mais je sais que ce film-là, je sais d'où il part, je sais d'où il sort, je sais quel fil est tiré depuis plus de 30 ans, et c'est pas étonnant que le film, la ligne claire de ce film, elle est à travers le personnage de Gérard Mélan. Et c'est pas étonnant que ça soit Gérard, qui est l'ami de Robert depuis très longtemps, qui incarne cette façon d'inventer un langage qui est celui de Robert, qui est celui que Robert a inventé pour faire du cinéma, pour raconter ses histoires à lui. Il a fait non pas des haïkus, mais des films. Gérard, qui était enfermé dans ce film, qui est un prisonnier pendant presque 30 ans, n'a pas vécu la croissance, l'affolement de la croissance, l'affolement de la productivité pendant toutes ces années-là, et il est resté en prison, et il a échappé à ça, et il s'est inventé sa langue, son langage.
Ça tombe bien, Jean-Pierre Darroussin, vous êtes venu avec des poèmes ce matin, deux petits poèmes,
c'est vrai, de Thomas Tranströmer, qui a eu un prix Nobel de littérature quand même, et qui est un poète suédois. Il se trouve que j'ai quelques appointances avec la Suède, mais
on ne sait pas ce que ça veut dire.
Bon, ça veut dire que ma femme est d'origine suédoise.
Je m'en doutais,
Jean-Pierre. Et que j'y vais souvent, voilà. Donc
la poésie.
Et donc la poésie suédoise. Là-bas, sur le terrain vague, non loin des immeubles, il y a depuis des mois déjà un journal oublié, truffé d'événements. Il vieillit durant les nuits et les jours, de soleil et de pluie, en passe de se muer en plantes, en choux paumés, de s'unir à la terre, comme un souvenir qui peu à peu en nous se transforme. Et puis tiens, un autre, qui est un peu plus dans l'esprit de ce que je ressens en ce moment. Là, de tous ceux qui viennent avec des mots, mais pas de langage, je partis pour l'île recouverte de neige. L'indomptable n'a pas de mots. Ses pages blanches s'étalent dans tous les sens. Je tombe sur les traces de pattes d'un cerf dans la neige. Pas de mots, mais un langage.
Quand vous lisez un poème comme celui-ci, quand vous faites un cinéma comme celui de Robert Guédiguian, dans quelle mesure, Jean-Pierre Darroussin, vous avez le sentiment de participer à une forme de résistance, à cet état des choses qui, on l'a compris, vous révolte?
Moi, j'ai eu pendant longtemps l'incertitude et quelque chose en moi qui ne me permettait pas de me sentir légitime quand on disait un artiste, quand on dit les artistes et tout ça. Et puis, petit à petit quand même, je finis par me sentir un peu artiste parce que c'est ça, c'est proposer des petits îlots de résistance, quoi. Et ça ressemble à ça, peut-être, un peu, faire de l'art.
Salut.
Coucou.
Ça va?
Mon mari, Nicolas. Le père de Gloria.
Bonjour.
Tu l'as vu?
Ouais.
Alors, Gloria.
Alors,
ça va?
Gloria.
Tu veux dormir un peu?
Un peu, ouais.
C'est un joli prénom, ça, Gloria.
Salut.
Tout bien?
Ça va.
Tu as quelque chose?
Juste un verre, je travaille.
Ça marche, ton business, Nico?
Je suis à fond les manettes.
Tu ramasses la monnaie un peu?
Faut pas que je compte les heures, mais ça commence à le faire.
Mais l'avantage, c'est qu'il peut s'arrêter quand il veut.
J'ai pas de patron sur le dos.
Ça vaut de l'or.
Et tu te crèves, mais tu sais pourquoi.
Et toi, tu travailles, Mathilda?
On est vendeuse. 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
C'est pas sûr. Tu vois tout en noir.
Bah, ma patronne, ça l'arrange. Hein. Après, elle prendra une autre vendeuse à l'essai. Une polonaise, une roumaine. Je ferai pareil à sa place.
Jean-Pierre Darroussin, invité de Boomerang ce matin, on vient d'entendre un extrait du nouveau film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi, pour lequel vous retrouvez les fidèles Ariane Ascaride, Gérard Mélan, Robinson Stévenin, mais aussi de nouveaux venus, mais non moins récurrents, Anaïs de Moustier ou Grégoire Le Prince Ringuet. L'expression famille de cinéma, quel sens est-ce que vous lui donnez, vous, Jean-Pierre?
Ah bah je sens le sens d'appartenir à, justement, à des lettres, à un alphabet, qui est celui de Robert, qui petit à petit, à travers nous, à travers nos corps, à travers nos vieillissements, à travers les gens, à travers les âmes.
Et vous êtes arrivé à quelle lettre? Reconnaître.
Moi, je suis arrivé. Je pense que je suis C. Il y a A comme Ariane, il y a B comme Gérard, il y a C comme Dada. Voilà.
Et alors quel genre de jeune homme est-ce que vous étiez à l'époque de la lettre C, Jean-Pierre?
J'étais un garçon qui aime bien se vouer, qui aime bien, qui cherchait et qui a rencontré cet univers-là que je connaissais déjà, puisqu'on se connaissait depuis quelques de belles lurettes avant que Robert commence à faire des films. Donc ça a été assez naturel. Je vivais dans la même interrogation de se dire il faut qu'on arrive à se constituer notre outil de travail, il faut que notre outil on puisse le dominer nous-mêmes, qu'on soit pas dominé par un outil. Donc on n'était pas des technocritiques à l'avance, mais à la fin des années 70, oui, on avait quand même cette sensation là qu'il fallait inventer notre petite entreprise personnelle. Voilà.
L'envie de théâtre, elle était venue quand, pour vous?
Elle s'est dessinée petit à petit. J'ai l'impression quand même que à l'école primaire, je faisais déjà des choses un petit peu, et puis petit à petit, quand même encore au lycée.
En fait, c'était un loisir.
Oui, c'était comme si je faisais du judo ou du ping-pong. comme les enfants, voilà. Mais enfin, avec cette petite différence près, quand même, que quand on s'inscrit dans un cadre, quand on met des enfants au sport, on essaye de les ouvrir à des. C'était une initiative un peu personnelle. Le cours de théâtre, c'est moi qui le donnais, alors que j'y connaissais rien. J'étais en troisième, j'avais ouvert un cours de théâtre, quand même ridicule.
D'autant que là où vous étiez très fort, Jean-Pierre Darroussin, c'était le dessin et la peinture.
Oui, j'étais effectivement plus. J'avais un grand-père qui avait été portraitiste, tout ça, quand il était jeune.
Alors vous faisiez
avant de devenir plombier, mais en tous les cas, Il m'a poussé là-dedans, il m'avait offert tout le matériel pour que je puisse dessiner, et j'adorais ça, et j'étais plutôt pas mal. On mettait mes dessins dans le couloir, dans les escaliers.
Mais c'était des dessins de quoi ?
Oh, des trucs, souvent des oiseaux. Ah, curieusement, ouais, je sais pas pourquoi, je dessinais des oiseaux.
Peut-être des oiseaux suédois.
Peut-être des oiseaux, des mésanges suédoises.
Exactement. Et aujourd'hui, vous continuez, vous qui êtes aussi sur les planches pour jouer la pièce Art de Yasmina Reza, vous continuez
à dessiner? Non. J'ai complètement arrêté cette activité. Ça reviendra. Mais
en fait, quand est-ce que le théâtre a pris le pas sur tout le reste? Quand est-ce que c'est devenu une chose bien plus sérieuse que ça en avait l'air au départ?
Je pense que le jour où j'ai franchi la porte du cours Florent, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'avais une copine, tout ça, qui m'a dit, viens, il y a un cours de théâtre, j'y suis allé. Et le jour où j'ai vu les autres élèves, et je me suis dit, mais je peux faire aussi bien, moi, je dois pouvoir y aller. J'ai senti que j'avais ma place là, quoi. Je me suis dit, bon, je me suis pas senti ridicule, et donc j'y suis allé, puis j'ai vu qu'il y avait effectivement un petit intérêt à me regarder, et que les gens s'arrêtaient, m'écoutaient, et donc ça m'a encouragé, et puis j'ai eu envie de revenir, et puis petit à petit j'ai rencontré des gens, et puis petit à petit j'ai rencontré des textes, et puis petit à petit j'ai rencontré j'ai suivi des bandes, voilà.
Et vos parents, de quel œil est-ce qu'ils regardaient tout ça?
Oh bah moi j'ai la chance d'avoir eu des parents qui regardaient qui avait un œil très bienveillant sur beaucoup de choses et un œil assez perçant. Moi, mon père, il savait bien que je travaillais avec lui. Hein. Il était étameur, mon père, et je travaillais avec lui et il savait que c'était un métier qui était en désuétude totale.
En quoi ça consistait ?
Il n'y avait pas d'avenir. Ça consiste à tremper des pièces dans un bain d'étain en fusion, après les avoir préparées dans des bacs d'acide, dans tout un tas de trucs assez difficiles avec des vapeurs qui sont pas faciles à respirer.
Et reprendre ce métier, ça aurait été quelque chose d'envisageable pour...
Oui, moi je vais commencer. Ça faisait déjà plus de 2 ans que je travaillais avec lui. Bon, c'est un métier dur, hein, physiquement, tout ça, mais c'est intéressant. Il y a toujours quelque chose à inventer au niveau technique. Il y avait des outils à fabriquer, à les inventer. Enfin, il y avait de quoi se prendre la tête, même la nuit, pour trouver la façon dont on allait résoudre tel problème. Donc, c'était pas mal.
En fait, je vous pose la question. Je me demande, Jean-Pierre Darroussin, il vous arrive de vous dire que la vie que vous menez actuellement aurait pu être tout autre, hein?
J'ai tenté le coup, déjà. Je me suis dit, tiens, quand j'avais 30 ans, une crise de la trentaine, peut-être, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Mais je me suis dit, mais après tout, je suis parti dans une direction. Je me suis fait une grève à moi-même, vous voyez.
Vous avez fait quoi?
Je me suis mis sur le bord de la rivière, un petit peu. Je me suis mis sur la grève, justement. Ouais. J'ai attendu voir ce qui se passait, et puis je me suis dit, bon, je vais voir d'autres choses. Je me suis mis à lire, je me suis mis à me documenter autrement, à dessiner beaucoup, beaucoup plus, à me remettre à dessiner, à peindre et tout ça. Et puis l'histoire m'a rattrapé. Je me suis retrouvé à jouer dans Mes Meilleurs Copains, ce qui était pas mal, parce que par rapport à ce que je vivais à ce moment-là, mes camarades étaient un peu inquiets. Ils avaient l'impression que j'étais redevenu un babacool, alors que le babacoolisme était... Il y avait un bashing terrible à l'époque, où personne ne voulait être babacool. C'était un truc, c'était ringardisé totalement. Maintenant, ça revient un petit peu. Hein. On voit que les jeunes, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils nous ont amenés dans la technique? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi grossir tout le temps? Pourquoi continuer sans arrêt à produire sans arrêt? À quoi ça sert? Vaut mieux être heureux quelque part, cultiver sa terre, et réinvestir d'autres champs.
En fin de compte, réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Jean-Pierre Darroussin? Je vous pose la question parce que j'ai l'impression que cette interrogation, elle ne cesse de travailler et de tourmenter les personnages de Gloria Mundi.
Réussir sa vie, c'est pouvoir se retourner. C'est marrant, puisqu'on parlait de mon père qui était... Il avait une petite expression, lui, c'était se retourner et puis de voir que le sillon est bien droit.
Alors retournons-nous, tous les deux, regardons le sillon, tiens. On va reparler de vie, juste après ça, Chad Estelle, tiens, quand même, La Belle Vie. C'était en 1962, et c'est bien, je trouve. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Pierre Darroussin, vous écoutez Boomerang. Parfois, la vie est belle.
Oh, la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie. On est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors, pense que moi, je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il a ce côté proverbial et bonhomme du géant de contes de fées. Vous savez, un brin dégingandé, le sourire farceur, l'œil tantôt brillant, tantôt coquin, l'oreille fine et délicate, le poil lustré et révolté. On s'imagine avec lui, bras dessous, partir à la chasse aux champignons, en forêt, avec un petit panier à provisions, récitant tantôt des fables de La Fontaine, tantôt des charades de Tonton, avec son sweat camionneur et sa veste par-dessus. Jean-Pierre Darroussin, invité de Boomerang pour Gloria Mundi en salle mercredi, le film dans lequel Robert Guédiguian engage, et c'est assez émouvant, une réflexion sur ce que c'est que d'être parent, être un père. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tiens, Jean-Pierre ?
Ah, ça veut dire favoriser vraiment le terreau et pour que la plante pousse justement peut-être le plus droit. Là, le terme est pas très juste parce que il y a des tas de plantes qui ont des circonvolutions et puis il faut être attentif au rythme, à la lenteur ou à la rapidité, attentif au rythme des réceptions et des émotions des enfants. Et être père, c'est oui, c'est ça, c'est de la tendresse aussi, c'est un regard quoi, c'est se dire que qu'il y a quelque chose, d'abord, évidemment, c'est quelque chose qui se perpétue, donc on est plutôt content par rapport à cette chose naturelle.
C'est votre père qui vous a appris à parler en images, en métaphores, en poésie, comme ça?
Oui, sûrement. C'est parce que, là, on est, en plus de ça, à l'heure actuelle, et le film raconte ça aussi, on est dans un monde où l'artificiel devient de plus en plus important. On sent bien que l'intelligence artificielle, on nous parle beaucoup de ça, mais l'intelligence naturelle, c'est bien aussi.
Dans quelle mesure vous lui ressemblez, à votre père, à qui vous consacriez un livre, Naguère, je crois, qui s'appelait « Le souvenir que je garde au cœur ».
Oui. Je pense que je suis resté assez proche. Enfin, en tous les cas, j'essaye d'avoir l'enfant que j'étais qui reste en moi. Et donc, l'enfant que j'étais était très imprégné de lui, mais pas que de lui, de ma mère aussi, des voisins, de la façon dont les gens vivaient. Je crois que j'ai gobé ça, que j'ai vraiment été une éponge de toute cette époque. Et lui, je sais que sa gestuelle, son langage, sont des choses qui sont restées en moi.
Et puis dans le métier aussi, je me disais peut-être que le métier de comédien, c'est un métier d'artisan, Jean-Pierre Darroussin.
Ça, c'est l'esprit reste le même, et c'est ça qui est pas trop mal dans le fait de faire du théâtre, par exemple, c'est que le théâtre a du mal à composer avec l'industrialisation, même si ça existe, hein, il y a des grandes troupes de théâtre qui partent jouer en Chine et tout ça, mais l'industrialisation a du mal quand même à gagner. Quand on est dans un théâtre, on a affaire à voilà, des gens qui défendent leur l'art dramatique, avec, c'est leur vie, ils passent leur temps, il y a quelque chose de, il y a de l'artisanat là-dedans.
C'est alors quoi la matière?
Cinéma est quand même plus contaminé par l'industrialisation, je dirais.
C'est quoi la matière première du comédien?
C'est un peu comme pour être père, je dirais, c'est la matière première, alors.
C'est la tendresse?
Oui, la tendresse, mais c'est aussi, c'est la vérité, mais la vérité, contrairement à, je dirais, à la science, par exemple, la science, c'est quelque chose de formidable parce que ça, c'est né d'un désir de précision. Alors que la vérité, elle peut aussi être toujours dans l'à-peu-près. Et nous, les acteurs, on cherche une vérité dans l'à-peu-près. Et c'est pas mal aussi, la vérité qui est pas très précise.
Vous la trouvez aussi, cette vérité, en regardant les autres acteurs?
Oui. Je dis toujours, enfin, les gens me disaient, ben moi, j'ai toujours mon ambition, c'est d'être un vieil acteur. Mais c'est parce que je m'identifiais quand j'étais jeune, je m'identifiais aux vieux acteurs et non pas aux jeunes premiers, quoi.
Tu as regardé, j'en vois là des acteurs.
Je le disais à toi, des quatre vérités.
Ah non, pas ce matin. Ce matin, je suis pas curieux. Je suis amoureux.
Amoureux?
Bah.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quand je pense que ça fait 2 mois que je moisis ici. Et pourquoi? Pour qui? Pour une brute pareille.
Pourquoi une brute pareille? Une brute gentille, non?
Oui, une brute gentille.
Bah alors?
Viens me voir comme ça. Quand ça lui fait plaisir, de temps en temps, en touriste.
Pour un touriste, voir que j'ai pas beaucoup de bagages.
Justement, est-ce que je te reproche? Tu as dû les amener, tes bagages.
C'est bien qu'il n'a jamais été question de s'entraîner, alors.
C'est ça que tu appelles des nuits d'amour?
Oh, des nuits d'amour. T'es bat-toi avec les nuits d'amour. C'est bon dans l'ellipse. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je gratte toute la journée, bah. Quand on gratte, la nuit se fait pour dormir. Tandis que le jour, bah.
Arletty, Jean Gabin, dans Le Jour se lève, c'est vous qui l'avez choisi, cet extrait, Jean-Pierre Daroussin, et je vous vois, vous souriez, vous êtes ému, c'est bouleversant. Hein.
Oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant.
Pourquoi cet extrait?
Je sais pas. Alors, franchement, ça m'est sorti comme ça, puisque il y avait ce petit travail à faire de trouver une scène et tout ça, et je me suis dit bon, il y a des tas de scènes, mais puis il faut quand même que ça soit d'abord en français, il faut que ça soit, on est à la radio, il y a pas l'image, donc de faire un extrait de film sans image, je trouve ça c'est très difficile.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'un film reste?
Parce qu'il correspond à l'époque dans laquelle il raconte l'époque. C'est-à-dire qu'un film reste parce qu'il peut devenir un documentaire avec le temps. L'histoire, on s'en fout au bout d'un moment, et le film devient un documentaire. Et là, par exemple, ce film-là, il est vraiment dans l'esprit de l'époque. À l'époque où il y avait un peuple qui existait encore, qui n'était pas si dispersé que celui de maintenant. Et ce peuple, voilà, il est fier de travailler, il travaille, il y a la lutte des classes qui est très présente. Et d'ailleurs, on voit quand, dans ce que dit Gabin, il dit l'amour, c'est pas fait pour ceux qui travaillent, la nuit, on est trop crevé parce qu'on a, et l'amour, la culture, tout ce qui est du côté de l'échapper, justement, de tout ce qui est du côté de l'évasion, les ouvriers de l'époque acceptaient ce sacrifice d'une certaine façon. Ils en parlaient comme d'un sacrifice.
L'amour, la lutte, la poésie. Comment on la termine cette émission, Jean-Pierre?
Avant, on va essayer de la terminer avec une petite tradition familiale. Et je vais essayer de chanter Le temps des cerises.
Bah, je vous écoute alors.
Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre rossignol et merle moqueur, seront tous en fête, Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles, cerises d'amour ou robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles, moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en m'étant offerte ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Mais merci.
Mais de rien.
Merci Jean-Pierre Darroussin d'être venu faire un tour dans l'émission. Je rappelle que Gloria Mundi de Robert Guédiguian avec la famille, Gérard Mélan, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, Lola Neymar, Grégoire Le Prince Ringuet, Ariane Ascaride, récompensée par le prix d'interprétation féminine lors de la dernière Mostra de Venise, sort mercredi. Le temps des cerises, j'ai l'impression d'en faire partie, moi, de la famille ce matin. On a tous l'impression d'en faire partie. Vous êtes très émus, là. Il y a de l'émotion dans ce film, il y a du tragique, il y a même du suspense. Je rappelle également, Jean-Pierre, que vous êtes à l'affiche des Éblouis de Sarah Succo, sur les planches aussi du Théâtre Antoine, pour la pièce Art de Yasmina Reza. Qu'est-ce que je vous souhaite ? Forza, on peut dire ça.